Chaque matin, avant même que la journée n'ait vraiment commencé, près de 18 millions d'entre nous s'installent derrière un volant pour aller travailler. 18 millions. Si on les empilait les uns sur les autres, ce ne sera plus une montagne, ce sera une colonne humaine de plus de 30 000 km. 2,5 fois le diamètre de la Terre. Et pourtant, le matin, toute cette hauteur disparaît à ras du bitume. Dans ce vertige incroyable, il reste un son minuscule. Le clignotant est un dispositif lumineux, actionné par le conducteur, destiné à signaler un changement de direction. 90 fois par minute, 1,5 Hz, il bat comme un métronome. Pas tout à fait le rythme d'un cœur, juste de quoi dire que l'on change de direction. On croit souvent qu'un clignotant a deux positions, gauche, droite, mais techniquement ce n'est pas vrai. Il y a une troisième position que tout le monde oublie, une position qui va nous intéresser tout particulièrement, la position centrale de repos. Et ce repos veut dire quelque chose. Quand rien ne clignote, ce n'est pas rien. C'est un accord tacite qui nous relie. Pour rappel, quand vous allez tout droit dans un rond-point, il est inutile d'activer votre clignotant. Le fait de ne pas le mettre indique que vous ne tournerez pas. Mais qu'en est-il si la personne oublie ? Rendez-vous compte de l'angoisse. Nous allons être obligés de croire que la personne devant nous ou derrière nous a bien activé la position centrale en pleine conscience et qu'il va aller tout droit, comme indiqué par son non-signal lumineux. Nous serions donc entourés de gens responsables qui indiquent leur direction en ne montrant aucun signal. C'est fantastique. C'est fantastique, oui, et c'est même prévu par le code de la route. Ce langage partagé repose sur une confiance absolue. Peut-être du même ordre que cette idée qui nous passe parfois par la tête quand on est sur une route à double sens et que l'on réalise qu'un simple coup de volant à gauche pourrait rendre immédiatement tout différent. En fait, sur la route, tous les jours, vous êtes obligé de faire confiance aux autres conducteurs. Une confiance aveugle en plus, mais qui fait partie de nos habitudes. Ou peut-être qu'on ne veut tout simplement pas y penser. C'est sans doute mieux, hein. Ouais, c'est sans doute mieux. Mais toujours est-il que notre clignotant a trois positions. Au fil du temps, il s'est complexifié. On l'a réduit à deux positions, jetant la position neutre dans la boîte à gants. C'est très certainement pour ça que les gens qui vont tout droit dans un rond-point mettent leur clignotant à gauche. Eux veulent avertir par crainte que l'autre n'ait pas confiance, et celui qui vient à droite a de toute façon peur que l'autre conducteur ait oublié d'indiquer qu'il va tout droit en n'indiquant rien. Mais le troisième, lui, qui va venir en face, il va finalement croire que le premier automobiliste veut faire un tour de rond-point et s'arrêter. Et le quatrième qui suivait le premier à sa gauche va croire que ce dernier va le coincer au centre du rond-point, qui ressemble maintenant plus à une équation à quatre inconnus dans un cercle qu'à une infrastructure de village. Bon, cette histoire tourne en rond en plus de me faire mal à la tête. La confiance et l'attention des conducteurs sur cette position centrale de repos auraient déjà tout simplifié dès le départ. Et bien sûr, je n'ai pas pris le temps de mentionner que les conducteurs qui ne mettent pas du tout de clignotant, par flemmardise, eux, n'utilisent pas notre chère position neutre comme il le faudrait. Pour eux, c'est plus comme laisser le robinet couler avant et après s'être lavé les mains en se disant que quelqu'un va bien le fermer pour eux. Bref, imaginez-vous tout ce bordel, toutes ces questions fois 18 millions de conducteurs. Ce matin, là, pendant que je vous parle, parti en fumée, avec juste un langage commun, compris, assimilé, tacite et appliqué avec un minimum de choses. De la conscience et de la confiance. C'est pas fou, ça? Laissez-moi maintenant vous faire une confidence. Toute cette histoire de clignotant et de code de la route me fait penser que, peut-être, que pour retrouver du beau dans ce monde, un beau qui fonctionne, il nous faut retrouver notre position centrale de repos et la confiance qui va avec.
Le beau n'est peut-être pas ce qui attire notre regard, mais ce qui récompense notre attention.
Est-ce qu'on a encore des mots pour dire qu'une chose est ratée sans juger la personne ? Un langage commun qui se perd, ne plus pouvoir dire à quelqu'un que ce qu'il fait c'est nul, que c'est raté ou peut-être pas à la hauteur ? Il faut qu'on se mette tous sur le même plan. Si on veut tous pouvoir échanger, avancer, apprendre, tirer vers le haut, c'est en utilisant les mêmes références qu'on va s'en sortir. Et les histoires de goût et de qualité, il y a une certaine part de technicité et d'harmonie qui est bien faite. Et on n'a pas besoin de tout aimer, bien sûr. mais reconnaître ce qui tient, ce qui ne tient pas. C'est quand même utile de valoriser ceux qui se donnent du mal, non? Et si plus rien ne peut être nommé, alors plus rien ne compte vraiment. Un langage commun qui se perd rend tout plus fragile. Et là, je défends une grammaire du beau, comme un langage partagé. Dans mon métier de tatoueur, et très certainement comme dans beaucoup de métiers du monde de l'art, on trouve un nombre incalculable de données, de facteurs, et tout autant de variables qui n'ont aucune réponse exacte. C'est long, c'est flou, très souvent sans réponse, et se repérer dans ce labyrinthe est vraiment fatigant. Mais alors, où peut-on trouver des repères, des bornes, qui vont nous aider à juger justement ce qui relève de la bonne pratique ou de la mauvaise? Face à ce brouillard, je me suis demandé où le beau ne se pense pas, mais se vit encore. Quand je tatoue un client, il doit attendre pendant que je tatoue. Un tatouage propre et net demande de ne pas bouger, c'est évident. Mais plus encore, il demande de la patience. Un mélange de douleur, d'attention et d'immobilité qui sont liés à la réussite d'une œuvre. Mon professeur de peinture en école d'art me disait souvent « Si vous voulez réussir à devenir un bon peintre, apprenez à faire la cuisine. » Encore une discipline de plus qui demande ses vertus de temps et d'investissement. Peut-être même de probité, pour servir quelque chose de noble et ne pas se moquer de la personne à qui on propose une toile ou une assiette. Mais je m'égare encore, revenons à notre séance de tatouage. Dans un monde qui se disperse, il y a encore des expériences comme le tatouage qui nous force doucement à habiter pleinement notre temps. On est là, sans bouger. Les secondes qui passent n'ont plus de tic, n'ont plus de tac. Peut-être que c'est un de ces moments où on se reconnecte avec le principe de création. Obtenir quelque chose ou le partager n'est plus un simple clic de commande ou un swipe d'impatience. Le beau est en cours de réalisation. Ceux qui aiment la philo savent que je n'invente rien. Platon, Aristote, je ne suis pas le premier et certainement pas le dernier à me trifouiller la tête au sujet du beau. Aristote d'ailleurs a dit « Les principales formes du beau sont l'ordre, la symétrie et la détermination. » Je suis d'accord avec lui. Ça vous fait une belle jambe, je sais, mais cette phrase a beau sentir la poussière, elle reste plus de 2300 ans après avoir été écrite, toujours autant d'actualité. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai aucune ambition de vous donner un cours de philo. Ça fait des têtes bien pleines, mais pas forcément bien faites. Non, je veux vous dire que ces questions existent. Elles sont légitimes et que bordel, qu'est-ce qu'on se sent seul quand on trouve un truc super beau et que personne ne partage avec nous notre avis. Et c'est pareil pour le moche. Vous avez remarqué à quel point c'est dur de dire à quelqu'un que son dessin est moche? Je suis sûr que là, sans même condamner personne, vous pouvez trouver ça déplacé de l'imaginer. Vexé, s'imposer en juge, qui suis-je moi pour trancher comme ça? Et l'autre pourrait penser, mais d'où il sort ce gars? Il se prend pour qui, sérieux? C'est pas des lol, comme disaient les jeunes en 2018. On voit bien que ça touche les gens, ça les rabaisse selon eux. Dans le monde du tatouage, un salon de tatouage avec des tatoueurs, ça fait trois choses. Ça dessine, ça tatoue et ça critique les tatouages des confrères et consoeurs. Inutile de lever votre sourcil, oui, je l'ai fait. J'en suis pas fier, mais c'est arrivé, légitimement. Hein. On va pas se cacher derrière notre petit doigt, en tout cas ce n'est pas vraiment mon genre. Il y a de sacrées horreurs sur les réseaux et ça fait du bien de cracher un petit peu. Ça relâche de l'oxytocine dans le corps et ça procure étrangement de la joie. Enfin, ça c'est moi qui le dis, mais ça reste à prouver. Bref, qu'est-ce qui nous pousse à donner notre avis comme ça? Je veux dire, on pourrait s'en foutre royalement et ne pas jouer les experts. Même quand on visite un musée, devant chaque peinture, le même rituel. J'aime ou j'aime pas. J'aime bien, mais cet autre ça est moche. Immanuel Kant, au XVIIIe siècle, en a parlé. Pour lui, quand quelqu'un dit « ce tableau est beau », il ne dit pas simplement « je l'aime ». En fait, il dit presque « tu devrais le trouver beau, toi aussi ». Le jugement esthétique a cette particularité étrange. Il est subjectif, mais il prétend à une forme d'universalité. C'est peut-être pour ça qu'on se met spontanément à débattre dans un musée. On ne veut pas seulement exprimer un goût, on cherche à savoir si notre regard est partagé. Du côté de Bourdieu, il est dit que commenter un tableau permet de montrer aussi qui on est. Dire « j'adore Rothko, mais je ne comprends pas Picasso » devient parfois une façon de se situer socialement. La critique sert alors à se situer socialement. Aimer, ne pas aimer, c'est afficher son langage et vouloir rallier des gens à sa cause ou les en éloigner. On prend évidemment moins de risques à se rallier à la majorité ou à une personne qui nous est chère ou que l'on admire comme une star de cinéma ou une icône de la musique. Attendez, est-ce que cela veut dire que notre appréciation du beau pourrait passer en second plan face à notre envie d'appartenir à un groupe ? Est-ce que réellement, face à 100 personnes viscéralement ancrées dans notre cause, nous pourrions maintenir nos positions, être en opposition, maintenir notre avis avec le risque de se retrouver seul et rejeté? C'est risqué, effectivement. On pourrait se mettre à dos quelqu'un ou tout un groupe de personnes en s'indignant devant un groupe de musique ou un plat, une cuisson de viande, un film, la politique. Du coup, si on y réfléchit, ne pas donner son avis reste encore le plus prudent, non ? Oui, sauf qu'on laisse ceux qui en ont un gagner par la force du « qui ne dit mot consent ». Ils n'ont pas mis leur clignotant, mais tournent à gauche. Et on les a laissés faire, une fois de plus. Je vous dis tout ça et... moi-même, je ne vous ai pas demandé votre avis. Je m'impose en quelque sorte. Peut-être vous êtes-vous demandé si vous êtes en accord avec ce que je dis ou pas. Je ne suis ici qu'une voix dans vos oreilles, facile à réfuter et à critiquer. Et franchement, c'est plutôt une bonne chose. Voici votre esprit critique dans sa pleine forme, livré à lui-même ou presque, votre droit le plus fondamental de penser comme bon vous semble. Mais que vous le vouliez ou non, vous êtes influencé par toutes ces choses que vous avez validées ou réfutées dans votre vie. À quand remonte votre dernière remise en question ? Avons-nous toutes les clés quand nous émettons un jugement ? La zététique et ses gourous nous disent que non. Systématiquement, nous sommes dans le faux ou le presque. Mais nous échouons à bien comprendre les enjeux de ce que nous pensons. Revenons un instant dans le musée, devant nos tableaux. Si vous écoutez, très peu de monde dit « regarde cette lumière » ou « les contrastes » ou « regarde cette touche » ou « la taille, la forme, le fond ». Ils disent « moi j'aime pas ». Comme si l'œuvre devait être consommée rapidement et jugée dans la minute, avant même d'avoir été regardée attentivement. Peut-être qu'il nous faudrait apprendre à mieux regarder et découvrir que le beau est sans doute un langage. Un langage lent et plus complexe. Il a son propre alphabet, ses conjugaisons, sa grammaire. C'est peut-être ça qui nous sortirait de ces sables mouvants, de la vie personnelle et de l'individualisme. Regarder attentivement, c'est voir plus. Voir toute la peinture et non pas seulement ceux qui nous arrangent. Vous-même, là, en m'écoutant en voiture ou allongé sur votre lit, vous n'avez sans doute pas pris le temps de regarder autour de vous. Trop concentré sur ma voix. Je me sens fatigué de tous ces mots d'essayer de capter votre attention. Permettez-moi autant qu'à vous 24 secondes de répit. Il existe une possibilité pour que nous ayons tort. Je tenais à vous le dire. Tort de croire ce que nous croyons, tort d'être certain de certaines choses. La plupart des gens vont regarder comme on leur a appris à regarder. Là où on aura attiré leur attention mille et une fois. Et si l'art de regarder l'art n'est plus enseigné, notre œil n'est plus qu'une biopaque dans sa cavité. Il est dit que 99% des gens ne pensent pas par eux-mêmes et que les 1% qui restent ne pensent toujours pas par eux-mêmes, mais que eux au moins le savent. Je vous laisse juger si c'est vrai ou pas, mais je crois que nous avons des automatismes. Et le problème, c'est que ces automatismes ne nous permettent pas de réaliser à quel point une chose belle est belle. Elle est juste belle car d'autres nous l'ont dit, des gens. Et c'est tout le problème des gens. Ils boivent leur vin en goûtant la première gorgée, mais plus les suivantes. Ils aiment la pluie sur leurs fenêtres, mais pas sur leurs vêtements. Le bruit du vent dans les branches, mais pas sa force. Le soleil, mais pas sa chaleur. L'été en hiver et le froid pendant les canicules. Les gens. Les gens. Alors les gens sont là, devant un coucher de soleil. Coucher de soleil presque similaire, en tout cas ils le souhaitent, à tous ceux qu'ils ont vus à la télé ou dans leurs films préférés. Ce coucher de soleil qu'on leur a vendu, indiqué à coups de signalétique à gauche et à droite, au rythme des images à 21 Hz de leur téléviseur ou de leur smartphone. Celui qu'ils s'empresseront de raconter sans pouvoir le retranscrire à leurs proches au retour de vacances. Juste une scène, entière, simple et presque classique, qu'ils se doivent d'apprécier car c'est la coutume sociale maintenant. C'est beau, mais peut-être pas parce que c'est juste joli. Oui, mais peut-être que ce que l'on regarde n'est pas juste une carte postale grandeur nature. Peut-être que le soleil qui se couche n'est autre qu'une boule d'énergie avec un diamètre de 1,39 million de kilomètres, soit 109 fois la Terre. Une fournaise qui transforme chaque seconde des centaines de millions de tonnes d'hydrogène en lumière à 150 millions de kilomètres de la Terre. Les photons qu'il nous envoie, eux, parcourent cette distance en un peu plus de 8 minutes, à la vitesse de la lumière. Environ 300 000 km par seconde, soit 4,7 millions de fois la vitesse d'une balle de tennis smashée par Roger Federer. La lumière qui rebondit sur l'eau de la mer, qui elle-même est constituée de molécules qui ont existé au moment du Big Bang, pour finalement se retrouver là, devant nous, dans notre œil. Machine extraordinairement complexe. Ces photons traversent notre cornée, notre cristallin, atteignent la rétine, où des millions de cellules le convertissent en impulsion. Et soudain, ce qui n'était que de la lumière devient un coucher de soleil. Peut-être que la magie, quand on utilise sa position centrale de repos pleinement, c'est de comprendre ce qui se passe. Le clignotant, lui, n'était qu'un petit élément de langage, une impulsion électrique perdue au milieu du trafic. Et nous sommes entourés de tout ce beau en attente de notre attention, chaque jour. En attente de notre acharnement à le voir. En fait, le beau n'était pas absent. C'est notre attention qui vient seulement de le rejoindre.